Voilà, bonsoir à tous. Je vous demande un peu d'attention, puisqu'on a la chance ce soir de recevoir Philippe Thureau d'Engin et Catherine André du Courrier International, respectivement directeur de la rédaction et responsable de l'international, si je m'abuse. Catherine André ayant en outre coordonné l'apparition de l'ouvrage signé de l'équipe du Courrier International qui retrace 20 ans de contre-histoire, 1991-2011. Petite parenthèse pour vous dire que cette année est une année faste en événements pour le Courrier International, puisque l'année a débuté avec le 1000e numéro, si je ne m'abuse, a continué avec l'apparition d'une nouvelle formule que vous trouverez d'ailleurs sur le piano ici, près de l'espace bar, va se poursuivre avec le numéro du 20e anniversaire et est ponctué aussi donc par l'apparition de cet ouvrage dont ils vont vous parler tous les deux. Merci à eux d'être parmi nous, merci à vous d'être présents. Voilà, je vous laisse les écouter pour retracer cette double décennie riche en événements divers. Merci à vous.
Merci beaucoup pour cette présentation et sympathique. Et merci aussi pour l'accueil de la librairie Filigrane, car nous sommes fort bien reçus et nous vous remercions bien sûr d'être là avec nous ce soir. Pour parler en effet d'un journal un peu atypique que vous connaissez peut-être, nous allons retracer rapidement cette aventure journalistique avant de parler un petit peu du livre que certains d'entre vous ont dans les mains. Et en effet, lorsque les fondateurs de Courrier International, il y a un peu plus de 20 ans, se sont dit « ça serait quand même intéressant de comprendre le monde où nous sommes et de comprendre où il va ». Et donc c'était bien sûr des Parisiens qui ont imaginé ça. Il faut savoir que dans les années 80, donc à Paris, eh bien on se regardait beaucoup le nombril. C'était des années très politiques, des années de Mitterrand. Et la grande idée des fondateurs, c'est de se dire, pour parler d'international, le mieux, c'est de c'est d'écouter ce que les journaux du monde entier, les revues, les quotidiens, les hebdomadaires disent de leur propre pays. Et donc le concept de Courrier International est né comme ça, il y a un peu plus de 20 ans. Et nous n'avons pas dérogé en fait à ce principe qui est de publier chaque semaine donc les meilleurs articles, les articles les plus pertinents de la presse étrangère. Et parce que lire en effet un article, par exemple russe, sur la Russie, sur le déclin démographique, puisque c'est le numéro de la semaine dernière, c'est passionnant parce qu'on voit, on apprend à la fois des choses et on apprend aussi quel est le regard d'un observateur russe sur la société russe. Donc là, il y a une façon effectivement plus riche de comprendre le monde où nous vivons. Et bien sûr, le numéro qui va sortir demain jeudi, ici en Belgique comme à Paris, c'est un dossier, nous avons un dossier sur la Chine cette fois-ci, après la décision du comité Nobel de donner le prix cette année à Liu Xiaobo, le dissident donc chinois. Ça nous a bien sûr paru essentiel de donner la parole à un peu tout le monde. Donc vous allez trouver dans nos pages, et ça explique un peu la méthode Courrier, vous allez trouver à la fois un article, un édito d'un quotidien officiel chinois, qui n'est pas le quotidien du peuple, mais qui est un autre organe de presse officiel, parce que c'est important de voir le raisonnement effectivement des autorités chinoises. Vous allez avoir un article d'un journal économique de Hong Kong qui, lui, est beaucoup plus libre, même si, comme vous le savez, Hong Kong, depuis 1997, a rejoint la Chine avec le principe deux systèmes, un État. Et dans cet article, bien sûr, dans cet article de Hong Kong, le journaliste peut critiquer Pékin et peut critiquer la politique de répression de Pékin. Et puis vous allez pouvoir découvrir aussi dans ce dossier sur le prix Nobel, eh bien les blogs qui ont pu être écrits juste après par certains Chinois avant que la censure ne tombe, et puis aussi même les tweets, puisque les tweets sont sont les autorités chinoises n'arrivent pas à les bloquer. Et donc c'est comme ça que les Chinois dissidents et la plupart des... Enfin, tous ceux qui s'intéressent bien sûr à la politique et qui militent un peu, eh bien, se communiquent la nouvelle et aussi la commentent avec des messages très courts mais très, très significatifs. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a d'autres articles de la presse asiatique ou internationale qui essayent de décrypter les conséquences politiques de ce Nobel de la paix, qui a été donc décerné à lui. Et ça, donc cette richesse que nous avons de points de vue, avec des points de vue très différents, nous la retrouvons sur tous les domaines que nous traitons. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple assez classique que nous avons traité de nombreuses fois, c'est bien sûr le conflit israélo-arabe, qui, comme vous le savez, dure depuis pratiquement 60 ans. Donc c'est pas une nouveauté, mais la nouveauté de Courrier International, c'est évidemment de pouvoir publier des articles israéliens et des articles palestiniens, des articles palestiniens de Ramallah, c'est-à-dire proches de l'autorité palestinienne, mais aussi des articles de journaux proches du Hamas, pour avoir une véritable diversité de points de vue, d'autres articles de la presse panarabe, et puis du côté israélien aussi, des articles éventuellement, disons, du centre-gauche libéral de Haaretz, mais aussi des articles de la presse plus nationaliste, comme le grand journal Ma'ariv israélien. Donc on a cette diversité de points de vue, c'est ça l'intérêt, et qui explique le succès de ce journal depuis pas mal d'années, qui est en effet de laisser le lecteur se forger sa propre opinion. C'est la même chose du point de vue économique. On essaye d'avoir des papiers, plus ou moins libéraux, plus ou moins critiques du capitalisme, pour là aussi à la fois expliquer la crise, éclairer un peu les enjeux internationaux et en même temps ne pas dire au lecteur ce qu'il doit penser, mais le laisser, comme je le disais, se forger son opinion. Et donc cette aventure a commencé, comme je l'ai dit, en 1990. Et depuis lors, le journal a subi pas mal de transformations, de maquettes, de propriétaires, puisque nous avons été baladés de groupe de presse en groupe de presse. Et maintenant, nous appartenons au groupe du journal Le Monde, et depuis quelques années maintenant. Mais au-delà de toutes les transformations... Au début, le journal était très économique, c'est-à-dire il parlait beaucoup, il citait beaucoup la grande presse économique, le Business Week, Financial Times ou la grande presse américaine. Et petit à petit, nous nous sommes intéressés un peu plus à la fois au reste du monde et au reste de l'actualité, c'est-à-dire pas uniquement la grande actualité économique et politique, mais aussi, bien sûr, on a cité depuis 12, 13, 14 ans, beaucoup plus de, par exemple, d'articles africains, d'articles de petits pays d'Asie ou de petits pays d'Europe aussi, bien entendu, puisque finalement Courrier est né de l'intuition donc de ses quatre fondateurs en 90, mais ça avait germé dans leur esprit avant la chute du mur, qui, comme vous le savez, est de novembre 1989. Et c'est pour vous dire qu'ils avaient l'intuition, ils ont eu l'intuition, donc moi je ne fais pas partie des fondateurs, ils ont eu l'intuition de ce monde ouvert qui allait venir et donc des enjeux qui allaient faire de l'actualité des années futures. Et donc cette redistribution des cartes avec la chute de l'Empire soviétique. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité de comprendre de nouveau, d'éclairer, parce que on a pu croire dans les premières années après la chute du mur que le monde allait être simple, que la démocratie libérale allait s'implanter partout avec l'économie de marché. Enfin, on avait parlé de la fin de l'histoire, et on se rend compte, bien sûr, 20 ans après, que ce n'est pas du tout le cas, qu'il y a toujours une histoire, il y a toujours de la politique, il y a toujours des enjeux. Et derrière la politique, il y a des choses plus souterraines, mais très importantes, qui sont évidemment la religion, qui sont évidemment les conflits ethniques, qui sont évidemment la géographie, qui sont l'histoire, et que donc là, il faut éclairer tout ça pour comprendre. Il faut pas, et c'est une idée que nous avons souvent dans l'équipe de courrier, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter non seulement à la politique spectacle, ça va de soi, mais à la politique aussi émotion ou à la politique morale, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a les bons, les méchants, pour reprendre des conflits africains, il y a d'un côté les résistants et de l'autre ou les dissidents d'un côté et le pouvoir qui est forcément méchant de l'autre côté. L'histoire est plus compliquée que ça et c'est ce que nous essayons de montrer chaque semaine dans l'hebdomadaire. Elle est plus compliquée et elle est plus riche, elle est plus passionnante. Chaque pays est traversé par des courants différents, par des courants politiques, par des courants ethniques. Il faut un peu les connaître pour comprendre. Parce que très souvent, on a des images, notamment à la télévision, où on a des déclarations qui sont un peu brutales. Et je crois qu'il faut aller derrière le fait, derrière l'image, derrière l'émotion, pour saisir les enjeux, qui sont des enjeux très souvent qui auront des répercussions pour nous, pour les Europes, pour l'Europe, pour nous Européens, pour nos vies quotidiennes. Et c'est ça un peu aussi l'idée de courrier, c'est que finalement le lointain comme le proche a des conséquences pour nous. C'est ce que nous essayons de montrer aussi, non seulement dans nos modes de vie, dans les modes tout court, mais également en termes politiques et en termes économiques. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde mondialisé, donc c'est important d'être à l'écoute de tout le monde. Alors, je vais bientôt laisser parler Catherine, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais pour vous dire que, à l'occasion de ces 20 ans, comme l'a dit la personne qui nous a présenté tout à l'heure, qui est le responsable des sciences humaines ici, eh bien, à l'occasion de ces 20 ans, nous voulions marquer le coup et faire autre chose qu'un journal. Et donc, c'était l'idée d'un livre que nous avons fait avec les éditions Flammarion. Et comme courrier, c'est un journal plutôt qui est tourné vers l'avenir, tourné vers l'anticipation, tourné vers l'explication. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire comme livre qui soit à la fois une rétrospective et en même temps qui soit un peu tourné vers l'avenir. Et donc on a décidé d'appeler ça une contre-histoire, au sens où nous avons repéré, et là je vais laisser Catherine l'expliquer, nous avons repéré un certain nombre de tendances de fond qui nous paraissent importantes, qui se sont développées au cours de ces 20 ans et qui sont des tendances qui sont porteuses d'avenir, c'est-à-dire qui vont certainement déterminer une partie de notre futur. Ce sont ces tendances, résumées autour de 9 chapitres, ou 8, 7 même, que nous avons choisi d'illustrer avec, bien sûr, la publication à la fois de dessins et des meilleurs textes que nous avons pu trouver dans Courrier au cours de ces 20 ans. Donc je laisse la parole à Catherine André, qui va vous expliquer un petit peu mieux ce qu'on trouve dans le livre.
Merci. Donc, comme Philippe vient de le dire, le livre donc, s'articule en 7 chapitres, parce que ce sont 7 zones dans lesquelles on a pu repérer des dynamiques à l'œuvre. Donc nous lisons à Courrier International, je crois, environ 1000 sources. Donc une équipe de journalistes, on lit dans toutes les langues et on a un nombre de sources assez extraordinaire, avec une richesse d'opinions et de reportages en fait assez inégalée. Pour faire ce livre, en fait, on est parti donc des archives de Courrier, en repartant 20 ans en arrière. Et on s'est aperçu qu'on pouvait dégager un certain nombre de tendances, comme vient de le dire Philippe, qui, à côté des grands événements majeurs que tout le monde connaît, et surtout à côté de ces deux dernières décennies qui sont quand même assez noires, après le formidable espoir qui a suivi la chute du mur de Berlin, je pense qu'on peut... Je vais aller très vite, mais je veux dire, entre la montée des intégrismes et la généralisation du terrorisme... Les faillites de la mondialisation financière, le creusement assez inégalé des inégalités dans le monde, On peut aussi repérer un certain nombre de zones, ce qu'on a appelé nous des zones de lumière. Bon, c'est pas facile de trouver un mot juste pour cela, mais en tout cas des petites graines, des événements peut-être moins visibles, mais qui ont en fait annoncé, qui sont annonciateurs d'un certain nombre de changements et qui finissent par transformer effectivement la réalité. Donc le livre s'articule, on ouvre le livre avec l'événement de la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'URSS, et dans un premier chapitre qui s'intitule « Plus de liberté, plus de démocratie », où on voit qu'un certain nombre de libertés ont progressé dans le monde au cours de ces 20 dernières années, et pas forcément là où on s'y attend le plus. Si on pense à l'Inde, il y a par exemple les intouchables qui ont progressivement trouvé une certaine ils ont commencé à pouvoir imposer un petit peu leur réalité, leur point de vue. Donc il y a des textes qui sont assez inédits dans le livre et des événements qui sont beaucoup plus que tout le monde connaît, mais qui sont aussi présentés du point de vue du pays ou du point de vue des personnes qui ont vécu ces événements. Et c'est là toute la richesse du journal. Et ensuite, on a repéré, donc pour les 6 autres chapitres, un certain nombre de tendances qui est « Faire la paix », donc c'est le deuxième chapitre du livre, où on voit que beaucoup n'ont pas réussi à faire la paix, comme on vient de le dire au Proche-Orient, mais il y a eu aussi des avancées très nettes. On pense évidemment à la fin de l'apartheid, mais également à des zones dans le monde où le sang n'a pas coulé comme on pouvait penser qu'il allait couler. Donc il y a un article, par exemple, en fait un entretien avec Mgr Samuel Ruiz qui a servi de négociateur au Chiapas, où donc là très concrètement il raconte comment il a pu éviter le bain de sang. Donc il y a plusieurs articles qui donnent très concrètement des exemples de ce qui a pu se faire ici ou là et qui ensuite ont servi d'exemple dans d'autres régions du monde. Je pense évidemment à la paix en Irlande. Donc là, il y a un article espagnol qui met en parallèle l'ETA et l'IRA. Et ensuite, on a, pour les autres chapitres, aux côtés du creusement des inégalités et de la mondialisation financière et toutes les crises qui s'en sont suivies, on a aussi repéré des changements tels que le prix Nobel d'économie attribué à Amartya Sen en 1998. Il a été primé pour son intérêt, ses travaux, notamment, entre autres, sur le bien-être. Comment ? Amartya Sen, oui, c'est un économiste indien qui a aussi la nationalité britannique, et qui a donc s'est vu décerner le prix Nobel de la paix de l'économie pour ses travaux sur le bien-être, sur les inégalités. Il est philosophe au départ, et donc l'économie qui à un moment est devenue de plus en plus économiciste est revenue un petit peu à son milieu d'origine, qui était la philosophie. Et qu'est-ce que c'est que finalement quel est le but, quel est l'objectif finalement du développement? Voilà, donc on a un chapitre avec des expériences parfois très concrètes, comme le mouvement des coopératives au Brésil, qui est devenu relativement important, avec l'idée de produire, de travailler différemment, autrement. Un chapitre qui est au centre du livre sur l'Afrique. On lui donne une place particulière dans le livre, sachant qu'en Afrique, il se passe des choses qui vont aussi dans le bon sens, dans le sens de l'espoir. On l'a intitulé « Renaissance africaine ». Pas parler de chaque article dans le livre. Il y a de très beaux textes, des textes parfois simplement très concrets sur des expériences concrètes, et des textes qui font vraiment réfléchir et qui, même s'ils ont été écrits parfois il y a 10 ans ou il y a longtemps, comme un texte de Vaclav Havel, reste étonnamment d'actualité et étonnamment annonciateur d'un certain nombre de choses. La fin du livre, les 3 derniers chapitres, se concentrent autour de la prise de conscience écologique dans le monde, sachant qu'à l'époque, par exemple, des premiers travaux qu'on a publiés dans le Courrier International sur finalement la nature nous rend un certain nombre de services, est-ce que ce serait intéressant d'essayer de l'évaluer. Donc les premiers essais peut-être un peu maladroits de mettre un prix sur les services rendus par la nature, c'était le tout début. d'une tentative tout début d'une prise de conscience écologique. Ça remonte à assez longtemps, mais ensuite, évidemment, aujourd'hui, ça paraît évident. Mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément de se demander quelle place on pouvait donner à l'écologie dans le développement. Donc ce chapitre retrace en fait la montée en puissance, en tout cas cette prise de conscience progressive mais réelle, d'une volonté de produire autrement et qui au fur et à mesure des crises, évidemment, tout ça est devenu beaucoup plus évident. Le chapitre suivant, c'est la révolution Internet, mais dans le sens des marges de liberté que cet outil a pu donner à de très nombreux égards. Donc il y a des textes pareils qui remontent au tout début de l'émergence d'Internet comme outil utilisé ici et là, et qui a permis, dans certains pays, qui est devenu un véritable outil d'expression, de liberté, parfois même un outil démocratique. Et on termine, qu'est-ce que j'ai oublié ? On termine le livre par, on a eu du mal à le titrer d'ailleurs ce chapitre, sur un certain nombre de valeurs autres qu'on peut distinguer dans ces 20 dernières années. Donc là, il y a un certain nombre de textes qui vont du mouvement Slow Food, qui maintenant est très connu, mais qui, au moment où Petrini l'a lancé, était assez peu connu, une volonté d'aller dans l'autre sens que cette accélération de la vie quotidienne, cette accélération de l'histoire, au contraire de vouloir vivre et produire différemment et penser différemment. Et des textes ensuite de grands auteurs, dont j'ai cité tout à l'heure Amartya Sen. Il y a un texte qui met en garde très subtilement contre les dangers du multiculturalisme. Voilà, des textes de Wole Soyinka, et parler du dernier. Nous terminons le livre avec deux textes publiés par le prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, qui s'intitule « Je n'ai pas d'ennemis » et qui est écrit de prison une lettre à sa femme où il est profondément dans la non-violence, et un texte de Ai Weiwei qui est un artiste chinois qui pareil on sent évidemment aussi cette montée de cette volonté d'expression en Chine et on termine le livre par ces deux textes très forts sachant que il y a une reconnaissance pour ces auteurs aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu veux dire autre chose, mais
non. Et là, en fait, ce qu'on voit au travers du livre, c'est qu'effectivement, tu as parlé d'Internet. On n'imagine pas effectivement comment à la fois Internet. Enfin, on en a parlé pour l'Iran, pour la Chine, etc. Et comment les satellites aussi ont changé la vie quotidienne d'un certain nombre de gens. C'est-à-dire que les technologies de communication, comme on dit. Par exemple, pour les Indiens d'Amérique, qui ont pu se communiquer beaucoup mieux, pour se fédérer, travailler, se faire reconnaître. On a parlé de l'Afrique, des renaissances africaines. Renaissance africaine, elle n'aurait pas été possible sans le mobile. C'est-à-dire que le mobile est, comme vous le savez, l'état d'un certain nombre d'infrastructures en Afrique est assez déplorable encore, y compris les réseaux fixes. C'est-à-dire que la téléphonie fixe ne marchait pas. Et le mobile a été une sorte de révolution qu'on n'a pas tout de suite comprise, mais qui est réelle et qui permet aux Africains véritablement de vivre d'une façon différente et à ce continent de commencer à se développer réellement. Ce qu'on commence à savoir, mais que nous avons effectivement mis en évidence depuis quelques années. La technologie, elle produit effectivement de l'accélération et elle produit parfois des effets périlleux, négatifs, et puis parfois aussi des effets positifs. C'est là la question des nuances et la question de l'analyse dont je parlais tout à l'heure, et c'est ce qu'on retrouve dans certains chapitres du livre.